Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, priez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, ou du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous en sommes au chapitre 8 de Saint-Luc, au verset 30, sur le polycopier qui contient les commentaires des Pères de l'Église, pour les chapitres 6 à 10, à la page 21, au haut de la page. Donc nous en sommes actuellement donc à la visite, un miracle de notre Seigneur Jésus-Christ, donc qui vient de guérir un possédé du démon, un homme qui était possédé du démon depuis longtemps, qui ne portait pas de vêtements, qui ne demeurait pas dans une maison, mais dans les sépulcres. Dès qu'il eut vu Jésus, il se prosterna devant lui, poussant un grand cri, il dit, « Qu'y a-t-il entre vous et moi, Jésus, Fils de Dieu très haut ? Je vous en conjure, ne me tourmentez pas, car il commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Il s'était en effet emparé de lui depuis longtemps, et quoique qu'on le gardât lié de chaînes et les fers aux pieds, il rompait ses liens, était entraîné par les démons dans les déserts. » Donc, voyons maintenant le verset 30 qui continue ce passage. Saint Luc chapitre 8, verset 30, Jésus l'interrogea en disant, « Quel est votre nom ?» Il répondit, « Légion, car de nombreux démons étaient entrés en lui. » La Légion, d'après les Romains, était composée de 6000 hommes. Donc le démon, étant le singe de Dieu, va reprendre certains des termes militaires utilisés par les hommes, parce que le démon prétend être le chef d'une légion, comme Dieu est le chef des armées célestes. Donc le démon se prévaut d'une autorité sur les autres démons, comme le chef militaire se prévaut d'une autorité sur ses soldats, sur le subalterne. Et comme notre Seigneur Jésus-Christ se prévaut d'une autorité divine, cette fois-ci, sur les armées célestes. La seule différence, c'est que Dieu est le chef véritable des armées célestes, alors que le démon, lui, n'étant que le singe de Dieu, n'a qu'une autorité toute relative sur les autres démons. Nous ne nous battons pas, dit Saint Paul aux Éphésiens, contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances et chefs de l'obscurité de ce monde, contre les esprits méchants qui vivent dans les lieux élevés. Il faut méditer un petit peu sur ce terme « légion », parce que une légion étant composée de 6000 hommes, ça semblerait dire qu'il y avait 6000 démons qui possédaient cet homme. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ est maître de ces démons. Cela nous aide à comprendre le nombre incroyablement élevé des mauvais anges. De même que le nombre des bons anges est incroyablement élevé, le nombre des mauvais anges qui ont été jetés du ciel par Saint Michel, un tiers des anges qui ont suivi Lucifer et sa révolte, eh bien, ce nombre des mauvais anges est également extrêmement grand. Et je fais souvent une comparaison avec l'infiniment petit. Si nous pouvions voir le nombre de microbes, de virus, de microbes en tout genre qui se promènent sur nos mains, nous serions complètement affolés. Nous n'aurions même pas utilisé nos mains pour manger. Bon, Eh bien, c'est la même chose avec le démon. Le démon essaye de rentrer dans nos âmes, mais n'oublions pas que le démon n'a aucune puissance sur nos âmes, sauf si je lui laisse la porte ouverte. Hein? Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est plus fort que le démon. Et il le suppliait de ne pas leur commander de s'en aller dans l'abîme. C'est les versets 31, 32 et 33 du chapitre 8 de Saint-Luc, page 21. Sur le polycopier. Or, il y avait là un grand troupeau de pourceaux qui paissaient sur la montagne, et les démons le suppliaient de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux, et il le leur permit. Les démons sortirent donc de cet homme et entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau alla se précipiter impétueusement dans le lac. Et se noya. Alors, voilà le sens mystique tel qu'il est expliqué par les pères. D'abord, les pères font remarquer que les démons ont dû demander la permission divine pour entrer dans les ports, car ils n'ont aucun pouvoir sur l'homme créé à l'image de Dieu. On dit qu'avant qu'un démon cherche à rentrer dans une âme, il commence par regarder par la porte ou par la fenêtre de cette âme pour voir qui est à l'intérieur. Et s'il y voit la Sainte Vierge, il n'y rentre pas, parce qu'il sait que la Sainte Vierge est celle qui a été choisie par Dieu pour lui écraser la tête. Donc mystiquement, le Christ montre aux hommes qui, à l'imitation des porcs, se vautrent dans les plaisirs et la concupiscence de la chair, qu'ils se précipitent aussi dans l'abîme de l'enfer. Il nous enseigne également que nous devons considérer pour rien la perte des possessions terrestres comparée à la perte de l'âme. C'est-à-dire, si j'ai perdu notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai perdu bien plus que si j'avais perdu des millions et des millions d'euros. Alors, il faut arriver à réfléchir un petit peu à ça, mes bien chers frères. On ne comprend pas ce qu'est le péché mortel, ce que provoque le péché mortel dans une âme. Parce que si nous avions réalisé vraiment, avec des âmes de foi, ce que le péché mortel provoque dans une âme, eh bien, je vous assure que on resterait pas en état de péché mortel pendant longtemps. Mais c'est ça qui m'affole parfois avec certains catholiques qui sont capables de rester dans le péché mortel parfois pendant des mois, alors qu'ils ont la possibilité de se confesser. Ça prouve qu'ils n'ont rien compris à ce qu'est le péché. Vous voyez ici cet homme qui a 6000 démons en lui, une légion, 6000 démons, c'est énorme. Eh bien, cet homme, possédé par 6000 démons, se retrouve sous l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ qui va expulser les démons. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Si je suis sous l'autorité du démon, parce que j'ai laissé pénétrer le péché mortel dans mon âme, je me suis donné au démon, me tant donné au démon, je deviens esclave du démon. Eh bien, si, étant esclave du démon, j'ai la possibilité de me confesser et que je n'en profite pas, c'est de la folie. La folie pure et simple. C'est ça le drame. C'est beaucoup trop de jeunes, surtout, restent dans le péché mortel, en se disant, bon, je me confesserai à l'occasion, mais ils ne sont pas du tout sûrs d'avoir cette occasion. Rappelez-vous, très souvent, j'explique ça aux jeunes quand ils m'en parlent, et aux moins jeunes d'ailleurs, que pour se confesser, il y a un certain nombre de conditions, la première étant d'être vivant. Bon, deuxième condition étant d'avoir un prêtre à sa disposition. La troisième condition, peut-être la plus difficile à obtenir, c'est d'avoir reçu du bon Dieu, avant la confession, la grâce, un acte de contrition. Au moins imparfaite. Si je n'ai pas reçu cet acte de contrition imparfaite, c'est-à-dire le regret de mes péchés, au moins par peur de l'enfer, je n'ai pas de contrition surnaturelle. N'ayant pas de contrition surnaturelle, mon absolution ne vaut rien, puisque la contrition est une des conditions pour que la matière soit complète. Rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, j'y reviens pas, sur la confession. Pour qu'une confession soit valide, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la contrition, l'accusation et la réparation. Alors on peut parfois donner certaines excuses pour certaines dispenses, plus exactement pour une accusation, une réparation même, mais on ne peut jamais donner d'excuses ou de dispenses concernant la contrition. Pas de contrition, pas d'absolution, c'est tout simple. Alors que les jeunes et les moins jeunes qui m'écoutent se rendent compte. Oui, j'avoue que moi, ça m'affole parfois. Quand je discute avec des personnes qui demandent à se confesser et qui me disent, voilà, monsieur l'abbé, ben, j'ai commis tel péché mortel il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois. Je dis, mais attendez, vous vivez au milieu d'une île déserte, monsieur? Ben non. Vous aviez la possibilité de vous confesser? Oui, monsieur. Oui, monsieur l'abbé. Et vous êtes resté 3 ou 4 mois sans vous confesser, alors que vous aviez la possibilité de vous confesser, vous aviez un prêtre à votre disposition, vous ne l'avez pas saisi au vol, cette occasion. Mais ça prouve que vous n'avez rien compris à ce que c'est que le péché. Mais si ces gens n'ont rien compris à ce que c'est que le péché, je me demande ce que vaut leur absolution. Et donc il faut commencer par augmenter dans l'âme de ces gens-là la compréhension de ce qu'est le péché mortel. Le péché mortel, c'est quelque chose de grave, c'est bien pour ça qu'on appelle un tel péché mortel. Mortel, ça veut dire qu'il donne la mort. Certes, c'est une mort spirituelle, mais c'est une mort quand même. Et c'est ça le drame. Vous savez qu'il y a 3 sortes de morts, j'en ai déjà souvent parlé, mais j'y reviens parce que c'est un peu le sujet de ce point de l'évangile. Il y a une mort physique, séparation entre corps et âme, on va tous y passer, une mort spirituelle, qui est la destruction de l'état de grâce par l'introduction du péché mortel dans l'âme, et la mort éternelle, qui est la chute en enfer. Mais je vous assure que si les hommes se préoccupaient de l'état de leur âme autant qu'ils se préoccupent de leur corps, ils seraient tous des saints depuis longtemps. Le problème, c'est qu'ils vont dépenser des millions et des millions pour garder leur corps en bonne santé, mais leur âme, ils s'en fichent. Vous voyez ? Donc ceux qui vivent comme des porcs deviennent la proie facile du démon. C'est pour cela que notre Seigneur va envoyer, pour expliquer justement le symbole, il va envoyer les 6000 démons dans le troupeau de porcs. Et les pécheurs qui savent que le péché ne peut coexister avec la vertu craignent la présence des saints à cause de leur zèle pour la correction des pécheurs et la punition du péché. Le démon donc sortir donc de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, le troupeau alla se précipiter impétueusement dans le lac et se noya. Donc il faut demander cette grâce de comprendre ce qu'est le péché, quelles sont les conséquences du péché. C'est en méditant sur les conséquences du péché pour chacun d'entre nous qu'on comprend la gravité du péché et qu'on comprend directement ce que représente la grâce sanctifiante. Il est aussi bien triste non seulement de voir, je viens de vous l'expliquer, que beaucoup de nos fidèles ne comprennent pas ou mal la gravité du péché, mais on a l'impression que certains considèrent que la confession c'est une simple formalité, donc je suis sorti du péché, mais si j'ai l'occasion d'y retomber, ben, je retomberai dans le péché, de toute façon je peux de nouveau me confesser. Mais attention, il faut, pour se confesser, avoir reçu de Dieu la grâce d'un acte de contrition surnaturel. Si la contrition n'est pas surnaturelle, qu'elle reste au niveau naturel, l'absolution donnée par le prêtre est invalide. Il faut regretter ses péchés, au moins, minimum, par peur de l'enfer, au moins ça. Avançons avec les versets 34 à 39 de Saint-Luc au chapitre 8. Quand ceux qui les faisaient paître eurent vu ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et l'annoncèrent dans la ville et dans les campagnes. Et les habitants sortirent pour voir ce qui était arrivé, et ils vinrent auprès de Jésus. Et ils trouvèrent l'homme de qui les démons étaient sortis, assis à ses pieds, vêtu et plein de bon sens, et ils furent saisis de crainte. Mais ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment il avait été délivré de la légion. Alors tout le peuple du pays des Gérasénien pria Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Et lui, montant dans la barque, s'en retourna. Et l'homme de qui les démons étaient sortis lui demandait de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant, « Retournez dans votre maison et racontez les grandes choses que Dieu vous a faites. » Et il s'en alla par toute la ville, publiant les grandes choses que Jésus lui avait faites. Il y a plusieurs choses qu'il faut noter. D'abord, on voit très bien que les habitants de cette région ont beaucoup plus peur, craignent d'avoir perdu les choses matérielles. Donc ils ne sont pas contents parce qu'ils ont perdu le troupeau de pourceaux qui paissait sur la montagne. Mais par contre, le fait que cette personne qui vivait dans les... ce démoniaque qui vivait dans les sépulcres ait été guéri, puisque l'évangile fait remarquer qu'il était de nouveau vêtu alors qu'avant il était nu dans les tombes et plein de bon sens. Eh bien, au lieu de se réjouir de voir que cette personne, cet habitant de la région qui était possédé par le démon est maintenant libéré, il se plaint d'une seule chose, la perte des cochons. Donc, ces gens mettent les biens matériels au-dessus des biens surnaturels, au-dessus des biens des biens surnaturels. Une deuxième chose, il me semble important, on va y revenir, mais c'est que on voit que cet homme qui, lui, vit dans l'action de grâce, il reconnaît qu'il a été délivré par notre Seigneur Jésus-Christ de 6000 démons, encore une fois, ce n'est pas rien. Donc, l'homme de qui les démons étaient sortis demandait à Jésus de rester avec lui, mais Jésus le renvoya. Et on voit très bien comment notre Seigneur Jésus-Christ appelle à son service certaines âmes, et pas n'importe lesquelles. Non pas qu'il ait un mépris pour cet homme qui vient de délivrer des 6000 démons, pas du tout. Mais on voit dans certains cas notre Seigneur Jésus-Christ qui appelle certaines personnes. Regardez le jeune homme riche. Le jeune homme riche qui se présente devant notre Seigneur Jésus-Christ, et notre Seigneur Jésus-Christ le regarde et l'aima, dit l'Évangile, symbole de la vocation religieuse. Donc il l'appelle, si vous voulez être parfait, vendez tout ce que vous avez, donnez-le aux pauvres, puis prenez votre croix, renoncez à vous-même et suivez-moi. Et l'homme partit malheureusement parce qu'il était très riche, qu'il n'a pas voulu abandonner ses biens. Et là au contraire, on voit un autre homme qui lui demande à suivre notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui refusait. Non pas complètement, il n'est pas méprisé par notre Seigneur Jésus-Christ, mais notre Seigneur le renvoie parce qu'il a une autre mission. Il lui dit d'aller, de rentrer chez lui et de publier, de raconter les grandes choses que Dieu a faites pour lui. On voit comment chaque âme est différente. Le bon Dieu appelle certaines âmes à lui de façon générale et d'autres, dans d'autres cas, il appelle d'autres âmes à lui de façon toute particulière. Vous voyez ? Donc la vocation, c'est ça. La vocation, c'est un appel. Le bon Dieu appelle certaines personnes à lui, pas tout le monde. On voit très bien avec Saint Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutez-vous? On le voit avec Saint Matthieu, venez et suivez-moi. Et Saint Matthieu se lève de sa table de changeur et suit notre Seigneur. Mais là c'est pareil, vous voyez, cela doit nous aider à comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ est libre. Libre dans le sens qu'il aime toutes les âmes, il souhaite que tous les hommes soient sauvés. Encore une fois, de volonté antécédente, notre Seigneur Jésus-Christ veut le salut de tous les hommes, et de volonté conséquente, il ne va le sauver que ceux qui acceptent de collaborer à son action. Et l'important, c'est de suivre la volonté du bon Dieu. Si le bon Dieu vous appelle d'une façon toute particulière, parce que le bon Dieu vous aime d'une façon toute particulière et vous appelle à son service, c'est le cas du jeune homme riche, si tu veux venir après moi, viens et suis-moi. Eh bien, il faut suivre. Et si le bon Dieu a devant lui quelqu'un qui souhaite suivre notre Seigneur Jésus-Christ d'une façon toute particulière, parce qu'il veut la vocation, et que le bon Dieu a d'autres idées sur lui, et que Dieu lui dise, restez chez vous, je vous renvoie, et racontez les grandes choses que Jésus a faites, il faut obéir. De même que quelqu'un qui est appelé par Dieu à la vocation religieuse doit suivre cette vocation religieuse pour sauver son âme, de la même façon, celui qui prétend vouloir suivre notre Seigneur Jésus-Christ de façon toute particulière par une vocation particulière, mais qui n'est pas appelé de Dieu, risque fortement de se damner en suivant notre Seigneur de cette façon, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour lui. Ici, on le voit très bien. Voyons à la page 22. Voyons comment les pères de l'Église interprètent ce passage un peu bizarre, un peu spécial. On pourrait croire que notre Seigneur Jésus-Christ se contente de la bonne volonté, qu'il voit que cette personne demande à rester avec lui, donc il va accepter. Ben non. Notre Seigneur Jésus-Christ appelle à son service, d'une façon toute particulière, ceux qu'il a choisis lui-même. Ça ne veut pas dire que les autres vont aller, mais pour la plupart d'entre nous, le chemin pour aller au ciel, c'est la voie commune. La voie commune, c'est l'état de mariage. Pour certaines personnes, le bon Dieu appelle à une voie plus parfaite, c'est la voie du célibat consacré, soit pour les femmes, soit pour les hommes. La voie sacerdotale, par exemple, pour les hommes. Donc Dieu est parfaitement libre d'appeler à son service comme il le veut, selon les circonstances que lui a choisies, qui il veut, et dans les circonstances qu'il a déterminées à l'avance. Dieu n'est pas obligé de prendre à son service de la même façon toutes les âmes, parce que chaque âme est différente. Là, on voit encore une fois, dans ce passage, comment notre Seigneur Jésus-Christ ne croit pas en la vertu d'égalité. Il n'y a aucune égalité devant notre Seigneur Jésus-Christ. Voyons ce que disent les pères sur ce passage en haut de la page 22. Le Christ ici nous enseigne qu'il faut préférer la vie contemplative à la vie active. Lorsque nos pensées sont éveillées aux vérités divines, nous ne voulons pas être de nouveau soumis aux soucis de ce monde. Et nous ne voulons plus être dérangés avec les besoins et les nécessités de nos voisins. Nous recherchons le calme de la contemplation, ce qui rafraîchit l'esprit sans labeur. L'esprit doit donc s'exercer au travail avant d'être consolé par la contemplation. On voit ici que même si le Christ nous enseigne qu'il faut préférer la vie contemplative à la vie active, la vie la plus proche de la perfection est un mélange de vie contemplative et de vie active. Parce que notre Seigneur, les pères disent qu'il faut préférer la vie contemplative à la vie active, ça ne veut pas dire que la vie contemplative doit exister sans vie active. En fait, l'Église a toujours été très réticente à l'égard de ceux qui veulent pratiquer une vie contemplative pure sans aucune vie active. Il y avait des moines du désert, beaucoup d'entre eux, au moins au début, lorsque les déserts d'Égypte, de Haute-Égypte, se sont peuplés de pénitents extraordinaires qui voulaient une vie contemplative totale en vivant en plein désert. L'Église a toujours été réticente là-dessus et a imposé à ses moines une forme de vie active. Et ils avaient le droit de vivre une certaine forme de contemplation, ils étaient des ermites souvent, mais ils dépendaient d'un supérieur. En général, la plupart d'entre eux n'étaient pas prêtres. Ils dépendaient d'un supérieur qui souvent était même évêque. Et donc, tous les ermites de la région devaient se retrouver une fois par semaine, en général le dimanche. Ils se retrouvaient dans le monastère, dans ce qu'on appelait la laure, pour rendre compte de leur vie spirituelle et leur vie active à leur supérieur. Et pour être sûr que les moines ne restaient pas en pure contemplation sans rien faire, eh bien les supérieurs leur imposaient une vie active. En général, ils devaient, avec des feuilles de palmier, c'était là qu'on trouvait dans ces régions-là, avec des feuilles de palmier, ils devaient faire des petits tapis. Les tapis qu'on utilisait dans la vie domestique. Et ces tapis étaient vendus au profit des monastères, au profit des pauvres. Eh bien, le supérieur imposait à chaque contemplatif un certain nombre de tapis à faire pour la semaine. Et ce nombre était différent de chaque personne. Personne plus jeune devait fournir plus de tapis que les personnes moins jeunes. Et il n'était pas question pour un jeune homme de dire à un jeune contemplatif de dire « Ah ben moi j'ai passé ma semaine à prier le bon Dieu, j'étais en haute contemplation, donc je ne me suis pas occupé de faire mes tapis. » Eh bien à ce moment-là, cet homme était fortement repris. S'il n'obéissait pas à ses obligations de vie matérielle pour supporter sa vie contemplative, eh bien, il était jugé indigne d'être un vrai contemplatif. On voit très bien que saint Thomas d'Aquin, dans sa somme, j'ai expliqué tout ça dans les commentaires sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin explique bien, dans le traité sur la vie religieuse, il explique très bien que pour lui, la vie la plus parfaite, c'est un mélange équilibré entre la vie active et la vie contemplative. Il faut équilibrer la vie contemplative avec la vie active et équilibrer la vie active avec une vie contemplative. Mais malheur à celui qui veut se lancer dans la contemplation sans un minimum d'action pour soutenir en quelque sorte sa contemplation, et malheur à celui qui veut au contraire faire l'inverse. Donc il faut les deux. Il faut à la fois une vie contemplative, mais aussi une vie active. Et je dirais, plus notre vie est active, plus il faut la contrebalancer d'une vie contemplative. Et plus nous avons une tendance naturelle à une vie contemplative parfaite, plus il faut contrebalancer la contemplation par l'action, il faut les deux. Ben pourquoi saint Thomas dit que la plus belle des vies, c'est une alliance entre la contemplation et l'action. Je voudrais vous reprendre rapidement certains passages, justement, où saint Thomas d'Aquin explique dans sa somme, c'est sur le traité, dans le traité des états de perfection, c'est la Secunda Secundae, question 171, 189, notamment la question 182 de la Secunda Secundae, l'article 1. Saint Thomas se pose la question de savoir, dans la question 182, qui compare la vie active avec la vie contemplative, il va se poser la question de savoir quelle est la plus importante ou la plus digne. Et voilà ce qu'il dit. La vie contemplative, il faut dire, absolument parlant, dit Saint Thomas, qu'elle est supérieure à la vie active. Pourquoi ? Parce que la vie contemplative convient à l'homme selon qu'il y a de meilleur en lui, qui est l'intelligence, et à l'égard de l'objet propre de l'intelligence, que sont les intelligibles. Pourquoi ? Deuxième raison, il suit Aristote. La vie contemplative peut durer plus longtemps, quoique non pas dans son degré suprême. Troisièmement, il y a plus de délectation dans la vie contemplative que dans la vie active. Quatrième raison, dans la vie contemplative, l'homme se suffit davantage à lui-même, ayant besoin de moins de choses pour s'y livrer. Cinquième raison, la vie contemplative est davantage aimée pour elle-même, tandis que la vie active est ordonnée à autre chose. Sixièmement, la vie contemplative se présente comme un loisir et un repos. La vie contemplative concerne le divin, la vie active concerne l'humain. Et enfin, dernière raison, la vie contemplative appartient à ce qu'il y a de proprement humain dans l'homme, c'est-à-dire à l'intelligence, tandis que les facultés inférieures, communes à l'homme et à la bête, ont part aux opérations de la vie active. Donc, Saint Thomas explique d'abord l'importance de la vie contemplative, et qu'en soi, c'est la vie contemplative qui est la plus digne. Ce qu'il faut pas dire, ce qui ne veut pas dire, bien entendu, qu'il faille mépriser pour autant la vie active. Voilà ce qu'il dit après. D'un point de vue particulier, et dans un cas donné, à cause des nécessités de la vie présente, il arrive que la vie active doit être choisie de préférence. Même Aristote le reconnaît, dit Saint Thomas. Il vaut mieux philosopher que gagner de l'argent, mais pour celui qui est dans le besoin, gagner de l'argent est préférable. Donc les âmes humaines deviennent nécessairement plus libres quand elles s'établissent dans la contemplation de l'intelligence divine et moins libres quand elles s'affaissent vers les corps. La vie active est donc nommée un service et la vie contemplative une liberté. Hein? Donc lorsqu'on est arraché à la vie contemplative pour être appliqué à la vie active, il ne s'agit pas d'abandonner la contemplation, mais d'y joindre l'action. Pourquoi ? Parce que l'action va équilibrer la vie contemplative. Voilà ce que dit Saint Thomas. Il arrive en effet que l'on soit arraché à la contemplation en vue de pourvoir à quelques nécessités de la vie présente. Pas à un tel point cependant qu'on doive délaisser entièrement la contemplation. Saint Augustin écrit « L'amour de la vérité aspire au saint loisir, les nécessités de la charité imposent ce juste travail, c'est-à-dire celui de la vie active. Si nul ne nous met sous les épaules ce fardeau, il n'y a qu'à vaquer à la recherche et à la contemplation de la vérité. Mais si on nous l'impose, la charité exige que nous le portions. Mais même dans ce cas, nous ne devions pas délaisser entièrement de la délectation de la vérité si nous ne voulons pas être privés de cette suavité écrasée par cette nécessité. » Vous voyez, Saint Thomas explique bien donc le lien qui existe entre les deux choses. Je reprends aussi un autre passage. Donc on a dans Saint Thomas d'Aquin, au chapitre, la question 188, à l'article 6, je vais vous retrouver ça tout de suite. Là, il y a encore des choses très importantes qui sont expliquées par Saint Thomas d'Aquin. Donc, dans cet article 6 de la question 188 de la Seconda Secundae, Saint Thomas se pose la question, c'est un peu un excursus, mais je pense que c'est important de rappeler la doctrine de l'Église sur ce sujet, puisque c'est le sujet qui nous préoccupe dans ce passage de Saint Luc. Un ordre religieux voué à la vie contemplative est-il en soi supérieur à un ordre voué à la vie active ? Voilà ce que dit Saint Thomas. La bonne part appartient à Marie, Marie-Madeleine, qui figure la vie contemplative par rapport à sa sœur, Sainte Marthe, qui représente la vie active. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ à Marthe. Marthe, Marie a pris la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. Nous avons déjà fait observer donc qu'un ordre religieux diffère d'un autre principalement par la fin poursuivie, secondairement par les exercices à l'aide desquels il y tend. Donc on estime en soi supérieur l'ordre religieux voué à une fin absolument supérieure. Donc si deux ordres ont la même fin, celui qui l'emporte est jugé non selon l'importance quantitative de ses exercices, mais selon leur adaptation à la fin recherchée. Il est plus beau, dit saint Thomas, d'éclairer que de briller seulement. De même, est-il plus beau de transmettre aux autres ce qu'on a contemplé que de contempler seulement. C'est la formule, la devise des dominicains, contemplare, contemplata, lis, tradere, contempler, et de donner aux autres le fruit de notre contemplation. Donc parmi les ordres religieux, ceux-là occupent le plus haut rang qui sont ordonnés à l'enseignement, à la prédication. Oui, mais là encore une fois, on voit très bien qu'il faut un équilibre entre les deux choses. Contempler, mais ensuite, il faut la vie active pour transmettre aux autres le fruit de notre contemplation. Donc le second rang appartient aux ordres voués à la contemplation. Le troisième rang se place les ordres qui s'occupent d'activités extérieures. Donc, vous voyez, il marque comme ordre principal, ordre du premier rang, ceux qui occupent un rang à la fois occupé, ordonné à l'enseignement et à la prédication. Il faut les deux choses. Pourquoi ? Parce qu'il peut arriver, dans certains cas, que les œuvres de la vie active l'emportent dans un cas donné sur la contemplation. Pourquoi ? Parce que la macération de la chair, pratiquée sans discrétion, risque d'aboutir à ruiner les forces corporelles. Un ordre n'est donc pas supérieur à un autre pour avoir simplement des observances plus rigoureuses. La macération par l'abstinence dans le boire et le manger, et donc par la faim et la soif, se révèle plus efficace que la macération par la privation de vêtements, par exemple, c'est-à-dire par le froid et la nudité, ou que la macération par l'effort physique. Donc il faut équilibrer les choses. Équilibrer la contemplation par l'action, et équilibrer l'action par la contemplation. Le Christ ici donc, on retrouve le texte des Pères, page 22. Le Christ ici nous enseigne qu'il faut préférer la vie contemplative à la vie active. Lorsque nos pensées sont éveillées aux vérités divines, nous ne voulons pas être de nouveau soumis aux soucis de ce monde. Et nous ne voulons plus être dérangés avec les besoins et les nécessités de nos voisins. Nous recherchons le calme et de la contemplation, ce qui rafraîchit l'esprit sans labeur. L'esprit doit donc s'exercer au travail avant d'être consolé par la contemplation. Vous voyez, voilà un passage important. Je répète cette phrase des Pères, l'esprit doit donc d'abord s'exercer au travail avant d'être concerné par la contemplation. Et c'est pour ça qu'en début de vie religieuse, on a beaucoup de vie active, on a beaucoup de vie purgative. On est en voie purgative, donc il y a beaucoup de pénitence. Pénitence physique, et pénitence physique par la mortification de la volonté propre. Et puis petit à petit, à force d'apprendre, d'avoir appris par l'obéissance et se sanctifier, à ce moment-là, on peut se lancer davantage dans la contemplation. Mais pas contemplation, sans d'abord la vertu d'obéissance et la vertu d'humilité. Donc les Pères disent que le Seigneur a établi pour chaque espèce de péché un châtiment correspondant. Donc il reprend ici les anciens pères. Ils reprennent ici les anciens pères. Voilà ce que disent ces pères. Le feu d'enfer est fait pour punir les ardeurs coupables de la chair. Le grincement des dents pour les rires lascifs. La soif intolérable pour réparer la volupté et l'intempérance. Le ver qui ne meurt pas pour le cœur dissimulé et méchant. Les ténèbres éternelles pour l'ignorance et la fourberie. La profondeur de l'abîme pour l'orgueil et pour cela... Et c'est pour cela que l'abîme est destiné aux démons qui sont les esprits d'orgueil. Donc voyez comment en châtiant les âmes dans leur bien corporel, Dieu se rend le bienfaiteur de leur... Je répète, voyons comment en châtiant les hommes dans leur bien temporel, Dieu se rend le bienfaiteur de leurs âmes. Mais Dieu est parfaitement équilibré. Et donc on voit aussi comment il accepte certaines personnes avec lui et d'autres au contraire, il va non pas les rejeter, mais leur demander de faire autre chose que ce qu'ils voulaient eux-mêmes. L'important c'est l'obéissance. Donc le jeune homme riche serait sanctifié en acceptant la vocation, puisqu'il était appelé par Dieu. Et ici le jeune homme, cet homme qui était possédé par les démons, par les 6000 démons, et qui vivait dans les sépulcres, eh bien... Il aurait voulu se sanctifier en restant avec notre Seigneur Jésus-Christ, mais notre Seigneur avait d'autres idées pour lui. Il a voulu qu'il se sanctifie en retournant chez lui et en racontant les grandes choses que Dieu avait faites pour lui. Et il s'en alla donc par toute la vie, publiant les grandes choses que Jésus lui avait faites. Donc Gérasa, on est dans le pays des Géraséniens, donc centré sur la ville de Gérasa. Gérasa représente les gentils que le Seigneur a visités par ses prédicateurs et après sa mort et sa résurrection. Après sa mort et sa résurrection. Donc cet homme qui était possédé, la figure du peuple des gentils, donc le peuple des païens. Il était depuis longtemps possédé du démon parce que depuis le déluge, ces peuples étaient sous la domination de l'esprit mauvais. Et les pères font remarquer trois choses. D'abord qu'il était nu, ensuite qu'il n'habitait point dans les maisons, et troisièmement qu'il demeurait dans les tombeaux. Alors voilà ce que ça veut dire. Il était nu, c'est-à-dire qu'il avait perdu les vertus qui servaient à la fois de vêtements et d'ornements à sa nature. Donc quelqu'un qui vit dans le péché est nu sur le plan spirituel. Il a plus les habits de la grâce sanctifiante. Il n'habitait point de maison dans la maison. Il n'habitait point de maison, c'est-à-dire qu'il ne se reposait pas dans sa conscience. Et il demeurait dans les tombeaux parce qu'il se plaisait dans les œuvres mortes, c'est-à-dire dans les péchés. Donc cet homme qui vivait nu représente quelqu'un qui a perdu la grâce sanctifiante. Donc il ne suivait pas sa conscience, mais reposait dans la vie de péché. Donc dans les œuvres mortes, c'est pour ça qu'il habitait dans les tombeaux, disent les pères. Que sont les corps des infidèles, sinon des espèces de tombeaux dans lesquels la parole de Dieu ne peut habiter. Donc cet homme, ayant brisé ses chaînes, était entraîné par le démon dans le désert. C'est-à-dire que lorsqu'on a transgressé ses lois, la passion conduit à des forfaits qui dépassent la mesure des crimes ordinaires. Il était possédé d'une légion de démons et figurait les nations esclaves elles-mêmes d'une multitude de démons. Donc les 6000 démons, la légion de 6000 personnes, représentent justement la multitude des démons. Et tout ça c'est symbolisé par les 7 péchés capitaux. Le mot 7 représente la totalité, si vous voulez. Donc les que je reprenne un petit peu ce que je cherche là. Donc le nombre 6 représente l'imperfection. Et donc les 6000 démons qui étaient dans cette âme par la légion représentent l'ensemble, si vous voulez, des péchés. De même que les 7 péchés capitaux représentent l'ensemble des démons qui tentent les hommes. Ça ne veut pas dire que ce sont toujours des péchés mortels. Attention, les 7 péchés capitaux ne sont pas toujours des péchés mortels. Par exemple, l'envie, la gourmandise, sont en général, je dis bien en général, des péchés véniels. Mais le nombre 7 des 7 péchés capitaux représente le fait que ces 7 péchés capitaux sont à la base de tous les péchés. D'où le chiffre de totalité qui est le numéro 7. Ce ne sont pas forcément les péchés les plus graves, mais les péchés capitaux sont des péchés qui ouvrent la porte à une multitude de péchés. Voilà pourquoi on les appelle capitaux, parce que capitus en latin, c'est la tête. Donc ça veut dire que c'est la base de tous les péchés, la racine de tous les péchés. Voilà ce que veut dire le mot capital. Les 7 péchés capitaux représentent 7 péchés qui sont à la base, à la racine de tous les autres péchés. Donc les pourceaux sont la figure de ces hommes à la fois immondes et superbes que le culte impur des idoles place sous la tyrannie des démons. Ce sont ceux qui, semblables à ces animaux immondes et privés de la parole et de la raison, souillent l'éclat et la beauté des vertus naturelles par l'infamie de leurs mœurs. Ils sont précipités dans la mer, c'est-à-dire que lorsque l'Église est enfin glorifiée, le peuple des gentils délivré de la domination des démons, ceux qui n'ont pas voulu croire en Jésus-Christ, précipités dans les abîmes par la curiosité aveugle et démesurée, sont condamnés à célébrer dans les retraites cachées leur rite sacrilège. Voilà pourquoi l'homme qui était sous le pouvoir du démon était obligé de vivre dans les tombeaux. Pourquoi, rappelez-vous? Parce que le tombeau représente les œuvres mortes, c'est-à-dire les œuvres des péchés. Il n'avait pas l'habit de la grâce sanctifiante et donc vivait nu. Les pourceaux sont précipités avec impétuosité dans la mer.
Parce que ces hommes ne sont pas retenus par la considération d'aucune vertu, disent les pères, mais sont entraînés dans la profondeur des abîmes, sur le penchant rapide de la corruption, et vont perdre la respiration et la vie au milieu des flots de ce monde. Donc la mer dans laquelle sont jetés tous les pourceaux, les démons sortirent donc de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau alla se précipiter impétueusement dans le lac et se noya. Verset 33 du chapitre 8 de Saint Luc. Eh bien, ces pourceaux qui sont précipités dans le lac représentent ceux qui perdent la respiration et la vie au milieu des flots du monde. Car il est impossible, en effet, à ceux qui sont les jouets des flots agités de la volupté, de pouvoir conserver la respiration et la vie de l'âme. Donc, de même que quelqu'un qui ne sait pas nager va mourir étouffé par l'eau, et va mourir noyé, de la même façon, celui qui se jette dans les eaux du monde sans la grâce sanctifiante pour le protéger, bien, va être complètement détruit par les agitations de ces flots du monde. Donc les gardiens des troupeaux, notre père, témoins de cet événement, s'enfuient. En effet, ce ne sont ni les maîtres de la philosophie, ni les chefs de la synagogue qui peuvent donner des remèdes efficaces au peuple atteint de maladies mortelles. Jésus-Christ est le seul qui peut les délivrer de leurs péchés. Voilà pourquoi les prêtres de l'Ancien Testament étaient incapables de délivrer cet homme qui était possédé par les démons qui vivaient dans les tombeaux. Notre Seigneur Jésus-Christ arrive et comme il est seul Dieu, il est le seul qui peut délivrer de ces tentations démoniaques ce pauvre homme qui vivait sous dans la vie de péché parce qu'il suivait 6000 démons. Donc les gardiens de pourceaux ne peuvent pas comprendre ces choses-là. C'est pour ça qu'au lieu de se précipiter pour notre Seigneur Jésus-Christ et le remercier d'avoir guéri ce démoniaque, eh bien, ils demandent à notre Seigneur Jésus-Christ de quitter la ville. C'est ahurissant, mais c'est comme ça. Oui. Tout le peuple du pays des Géraséniens pria Jésus de s'éloigner d'eux car ils étaient saisis d'une grande crainte. Et donc, notre Seigneur va obéir et s'en aller. Il va abandonner ce pauvre peuple. Si au contraire ce peuple s'était tourné vers notre Seigneur à genoux pour le remercier d'avoir guéri cet homme qui était dans les tombeaux depuis bien longtemps, eh bien ils auraient tous été convertis, mais ils refusent notre Seigneur Jésus-Christ et donc vont obtenir ce qu'ils souhaitent, à savoir le départ de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ces gardiens de pourceaux qui ne comprennent pas représentent le chef des impies. Les Géraséniens, qui en apprenant ce qui s'est passé, prient Jésus de s'éloigner, figurent cette multitude d'hommes, disent les pères, qui, séduits et retenus par les plaisirs dans lesquels s'est écoulée toute leur vie, honorent la religion chrétienne, mais ne veulent pas embrasser ses prescriptions, sous le prétexte qu'ils ne pourraient les accomplir. Ils ne laissent pas toutefois d'admirer le peuple fidèle, qui voit guéri de l'état désespéré où ses crimes l'avaient réduit. Donc ils comprennent en partie, mais pas tout. Ils voient bien que cet homme qui était possédé par les 6000 démons est maintenant libre, mais ils n'ont pas suffisamment de force de volonté pour se mettre au service de Dieu. Et donc ces Géraséniens, disent les pères, c'est en bas de la page 22, représentent la synagogue juive. Ses habitants supplient le Seigneur de s'éloigner parce qu'ils sont saisis d'épouvante, car l'âme qui est encore faible n'est point capable d'entendre la parole de Dieu et ne peut supporter le poids de la sagesse. Voilà pourquoi lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va arriver vers eux, mais qu'est-ce qu'ils vont demander? Ces pauvres juifs vont dire que son sang retombe sur nous, sur la tête, sur nos enfants, et sur nos têtes et la tête de nos enfants. Et donc au lieu d'être sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ, ils vont être perdus parce qu'ils refusent notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les Géraséniens, qui refusent notre Seigneur Jésus-Christ, représentent les gentils qui ne veulent pas se convertir, et représentent aussi le peuple juif qui refuse de se convertir. Donc le texte fait remarquer que notre Seigneur donc, va s'en retourner, en haut de la page 23, le Seigneur quitte ces lieux peu élevés pour gagner les hauteurs, c'est-à-dire qu'il se rend de la synagogue à l'église. Il traverse de nouveau le lac, car personne ne peut passer de l'église à la synagogue sans danger pour son salut. Mais celui qui veut accomplir ce passage, qu'il porte sa croix, s'il veut éviter tout danger. En désirant être réuni à Jésus-Christ avant le temps marqué, on s'expose à négliger le ministère de la prédication qui a pour objet le salut de nos frères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, c'est Dieu qui choisit le temps pour nous de le rejoindre. voyez, quand ce jeune homme, ce jeune homme demande à suivre notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ le renvoie dans sa maison pour qu'il publie les grandes choses que Jésus lui avait faites. Ce qui ne veut pas dire que notre Seigneur ne voulait pas le salut de cet homme. Mais ce n'était pas le moment qu'il vienne avec lui. Peut-être que notre Seigneur Jésus-Christ, plus tard, va accepter ce même homme, mais pas pour le moment. Il faut que le fruit soit mûr. Parfois, le fruit n'est pas encore mûr, mais mon Dieu demande d'attendre. Rappelez-vous cette expression de saint François de Sales, c'est pas en poussant, en tirant sur la fleur qu'elle va pousser plus vite. Il faut que le fruit soit mûr, il faut que la fleur soit mûre dans son bourgeon avant de s'éclore, avant d'éclore au soleil. Eh bien, c'est la même chose pour notre âme. Le bon Dieu demande à certaines âmes de le suivre immédiatement, c'est le cas de saint Paul, c'est le cas de saint Matthieu, et à d'autres âmes, il demande d'attendre, c'est le cas pour ce jeune homme, qui pourtant avait la volonté de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, attention de se sanctifier, non pas selon notre volonté propre, mais se sanctifier selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la page 23, donc avançons un petit peu avec les versets 40 à 49 du chapitre 8. Il arriva que Jésus, à son retour, fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici qu'un homme, nommé Jaïr, qui était chef de la synagogue, vint et se jeta aux pieds de Jésus, le suppliant d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique, âgée d'environ 12 ans, qui se mourait. Et il arriva qu'en y allant, il était pressé par la foule. Et une femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien en médecin, sans qu'aucun eût pu le guérir, s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, et aussitôt sa perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui est-ce qui m'a touché ?» Mais comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui répondirent, « Maître, les foules vous pressent et vous accablent, et vous dites qui m'a touché ?» Et Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une vertu était sortie de moi. » Alors la femme, voyant qu'elle n'avait pu rester cachée, vint toute tremblante et se jeta à ses pieds, et déclara devant tout le peuple pour quel motif elle l'avait touchée et comment elle l'avait guérie. Elle avait été guérie à l'instant même. Et Jésus lui dit, « Ma fille, votre foi vous a sauvée, allez en paix. » Comme il parlait encore, quelqu'un vint dire au chef de synagogue, « Votre fille est morte, ne l'importunez pas. » Donc notre Seigneur Jésus-Christ va faire un miracle, mais sur la route de ce miracle, il va en faire un deuxième, en guérissant cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, et qui dépensait tous ses biens en médecin, qui n'avait pu la guérir. Oui, les traditions se conservent souvent dans notre monde d'aujourd'hui. Les médecins sont bien incapables aussi de tout guérir. Hein, pourquoi ? Ben, parce que Dieu seul a un pouvoir total sur les corps et les âmes, pas les médecins. Le médecin peut avoir des idées, peut participer au travail de salut physique, salut corporel, mais seul Dieu a un pouvoir total sur les corps et les âmes. Le pouvoir d'un médecin est donc un pouvoir relatif, un pouvoir limité. Alors voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église sur ces passages. Donc on est à la page 23, en bas de la page. Nous célébrons la résurrection temporelle dans la passion du Sauveur pour affermir notre foi à la résurrection éternelle. Donc cette femme n'avait pas encore une bien juste idée du Sauveur puisqu'elle espérait pouvoir lui cacher sa démarche, avoir touché la frange de son manteau. Ce ne furent pas les seuls vêtements du Sauveur qui produisirent ce merveilleux effet, car les soldats les tirèrent au sort entre eux sans éprouver rien de semblable, mais elle fut guérie par la vivacité de sa foi. Elle ne toucha extérieurement le Sauveur qu'après l'avoir touché spirituellement par la foi. Elle cherchait Dieu. Vous voyez, on voit très bien que ce n'est pas parce qu'on touche notre Seigneur Jésus-Christ qu'on est sauvé. Hein. Regardez si c'est l'allusion des pères, donc les soldats qui gardaient le corps de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix au Vendredi Saint, ont tiré au sort la tenue de notre Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont pas trouvé la foi pour autant parce qu'ils ne la recherchaient pas cette foi. Par contre, cette femme qui fait un acte de foi extraordinaire, parce qu'elle se dit, si je touche simplement la frange de son vêtement, ça suffira pour que je sois guéri. Hein? Immédiatement, Dieu a pitié d'elle et sa perte de sang s'arrêta. Donc on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ, avant de faire des miracles, exige la foi. Et s'il n'y a pas la foi, il n'y a pas de miracle. Vous voyez ? Il aurait pu faire des tas de miracles pour convertir des tas de gens. Il aurait pu convertir, par exemple, Pilate. Il l'a pas fait. Il a converti sa femme, Claudia Procula, qui est canonisée par l'Église sainte, Claudia Procula. Mais Pilate cherchait pas Dieu. Comme il ne cherchait pas Dieu, il n'a pas reçu la grâce de la conversion. Lui. Sa femme l'a reçu, mais pas lui. Et si sa femme est devenue sainte, Pilate lui a très mal fini, puisqu'il a fini par se suicider et a été envoyé par Tibère à Vienne, en Gaule. Et là, de désespoir, et a été mis sur la touche, littéralement, par le pontife romain, eh bien, il va se suicider. Donc, voilà ce que disent les pères. Il est inutile de toucher les vêtements du Sauveur pour le salut si on ne le touche pas avec un vrai sentiment de foi. On ne les touche véritablement que lorsqu'on est inspiré par la foi. Donc par ce miracle, le Sauveur a amené le chef de la synagogue à croire sans hésiter qu'il délivrerait sa fille des liens de la mort. Il ne guérit le corps qu'après avoir guéri l'âme par la foi. La foi nous obtient la grâce de l'adoption. Donc d'abord la foi est demandée et ensuite Dieu va guérir le corps si c'est nécessaire. C'est pas toujours nécessaire. Donc, dans certains cas, Dieu ne guérit pas les corps. Pour cela, on voit très bien quand on donne le sacrement de l'extrême onction pour les mourants, eh bien parfois le bon Dieu permet que ce sacrement d'extrême onction entraîne une guérison corporelle, mais c'est pas toujours le cas, même c'est rarement le cas. Par contre, cette extrême onction va entraîner une régénération de l'âme. Puisque une extrême onction reçue avec les bonnes dispositions va ôter toutes les peines temporelles des péchés déjà pardonnés. Quelqu'un qui reçoit l'extrême onction avec les meilleures dispositions va donc effacer toutes les peines du purgatoire. Pourquoi il faut seulement donner l'extrême onction aux gens après qu'ils se soient confessés? Parce que l'extrême onction en tant que telle n'enlève aucun péché. L'extrême onction enlève les conséquences des péchés, c'est-à-dire la peine temporelle des péchés déjà pardonnés. C'est un sacrement des vivants et pas un sacrement des morts. Le sacrement des morts, c'est un sacrement qui peut enlever les péchés. Ce n'est le cas que du baptême et du sacrement de pénitence. Le sacrement d'extrême onction est un sacrement des vivants, c'est un sacrement qu'on ne peut recevoir qu'en état de grâce. Donc Jésus-Christ a quitté la synagogue en s'éloignant des Géraséniens. Et nous, qui sommes étrangers, nous recevons celui que les siens n'ont pas voulu recevoir. Le chef de la synagogue, c'est la loi. Selon d'autres, c'est Moïse, qui porte avec raison le nom de Jaïr, c'est-à-dire celui qui éclaire ou qui est éclairé. Mais si je cherche Dieu, je trouve Dieu. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a pitié de cet homme qui vient, se jette aux pieds de Jésus, suppliant d'entrer dans sa maison. Cependant, sa foi n'est pas encore totale, parce qu'il demande à ce que notre Seigneur Jésus-Christ vienne jusqu'à sa fille qui était âgée d'environ 2 ans et qui se mourait. S'il avait eu une foi, il aurait suffi qu'il dise « Il n'est pas utile que vous entriez sous mon toit. Je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. Dis seulement une parole et mon âme sera guérie. » Donc, cette femme, au contraire, elle est mûre dans sa foi. Elle se jette aux pieds de notre Seigneur. Par les pieds de notre Seigneur, il faut voir l'incarnation par laquelle il a touché la terre de notre mortalité. La fille unique, c'est la synagogue, qui allait mourir âgée seulement de 12 ans, c'est-à-dire aux approches de sa puberté. Parce qu'en effet, après avoir reçu des prophètes et une éducation distinguée, elle devait, une fois parvenue à l'âge du discernement, produire pour Dieu des fruits spirituels. Mais la multiplicité de ses erreurs l'ayant fait tomber en langueur, elle ne put entrer dans les voies de la vie spirituelle. Et si Jésus-Christ ne fut venu à son secours, elle eût succombé à une mort certaine. Voilà pourquoi cette petite fille de 12 ans va mourir. On voit les amis du chef de la synagogue qui viennent le prévenir, votre fille est morte, n'importe plus, le maître c'est trop tard. Et notre Seigneur Jésus-Christ va au contraire dire à ce père éploré, ne craignez point, croyez seulement et elle vivra. Et donc il va augmenter la foi dans cette âme. Et voyant que cette âme est prête à augmenter cette foi, notre Seigneur va lui donner une grâce spéciale pour qu'il augmente la foi. Et cette voix étant augmentée, à ce moment-là, notre Seigneur Jésus-Christ va guérir cette personne. Il va venir et guérir la fille de Jaïr, le chef de la synagogue. Le Sauveur est donc pressé par la foule, parce qu'il est comme accablé par les mœurs de ceux qui mènent une vie charnelle, alors qu'il annonce aux Juifs les enseignements du salut. La Sainte Église, composée des gentils, et qui allait périr de ses désordres et de ses crimes, dérobe par la foi la grâce de la guérison qui était réservée à d'autres. Donc les gentils étaient en train de se précipiter en enfer, donc Dieu va créer l'Église aussi pour les gentils. Et l'Église catholique est une Église pour tous les hommes. Il n'est pas simplement l'Église des pauvres, comme le prétend Bergoglio. Non, c'est l'Église de tous les hommes. On le voit très bien avec les différentes visites qu'a notre Seigneur Jésus-Christ après sa naissance à la grotte de Bethléem. D'abord les anges, puis les plus pauvres, à savoir les bergers, puis les plus riches, les trois rois mages, pour bien montrer que l'Église catholique est une Église pour tous les hommes. C'est pas simplement une Église des riches ou l'Église des pauvres, l'Église de tous les hommes. Donc cette perte de sang de cette femme qui était affligée de cette perte de sang depuis 12 ans, cette perte de sang peut s'entendre de deux manières, et la prostitution de l'idolâtrie et des honteuses jouissances de la chair et du sang. Donc cette femme qui n'était pas une juive, se convertir de l'idolâtrie et obtenir la guérison de son infirmité. Lorsque la phrase dit « Quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une vertu était sortie de moi », c'est le symbole de la conversion. Cette femme cherchait Dieu, elle va trouver notre Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, les Juifs qui ne cherchaient pas Dieu ne vont pas le trouver et vont mourir dans leur péché. Donc cette fille du chef de la synagogue qui meurt à l'âge de 12 ans, et cette femme qui souffrait depuis 12 ans, signifie que l'Église a été dans le travail et la souffrance tant que la synagogue existait. Cette femme ayant épuisé toute sa fortune pour se faire traiter par les médecins, signifie que les gentils avaient perdu tous les dons de la nature. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a pitié d'eux. Notre Seigneur Jésus-Christ a pitié de cette femme, qui était pourtant une païenne, de la même façon qu'il a pitié aussi des Juifs pour permettre la conversion importante du peuple juif. Beaucoup de Juifs vont se convertir. N'oublions pas encore une fois que les premiers apôtres, les premiers disciples de notre Seigneur Jésus-Christ sont tous des Juifs qui ont converti, qui ont commencé par notre Sainte Vierge Marie, commencé par Saint-Pierre, qui était de race juive. Donc, quels que soient les dons de la nature ou de la grâce qui ont été perdus, à partir du moment où je cherche Dieu avec humilité, et que je fais un acte de foi, je vais retrouver les dons de la nature par la résurrection physique, et les dons de la grâce par la résurrection spirituelle, qui est de loin la plus importante. Donc le peuple des gentils qui a cru au vrai Dieu a rougi des crimes auxquels il voulait renoncer, a embrassé la foi qu'il devait professer, fait preuve de piété dans ses prières, de sagesse en reconnaissant sa guérison, de confiance en avouant qu'il avait comme soustrait la grâce qui était destinée à d'autres. Et donc, littéralement, cette femme qui souffrait de cette perte de sang depuis 12 ans va littéralement voler les grâces qui étaient destinées aux autres. Au début, le bon Dieu destinait ses grâces aux Juifs. Les Juifs, beaucoup d'entre eux au moins, ayant refusé ses grâces, Dieu va utiliser ces mêmes grâces pour convertir des non-Juifs. Alors qu'au début, il était appelé simplement aux enfants d'Israël. Donc, cette personne qui le touche, cette femme qui touche notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il dit dans l'Évangile, s'approchant par derrière, elle toucha la frange de son vêtement. Bien, cette femme qui touche notre Seigneur Jésus-Christ représente ceux qui sont véritablement unis par l'humanité. Notre Seigneur Jésus-Christ, en prenant notre humanité, c'est uni aussi à notre humanité de façon mystique. Attention, il faut, pour pouvoir être converti par notre Seigneur Jésus-Christ, il faut évidemment la foi. C'est bien pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ exige la foi, même de ce chef de la synagogue, et tant qu'il n'y a pas la foi, il ne guérit pas. Mais cette humanité de notre Seigneur Jésus-Christ représente notre humanité. Donc ceux-là qui le touchent sont ceux qui sont véritablement unis par l'humanité. Ceux qui ne touchent pas notre Seigneur Jésus-Christ ne sont pas unis véritablement à cette humanité parce qu'ils refusent l'humanité unie à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. La foule qui le presse sans le toucher parce qu'elle est importune par sa présence et absente par sa vie. On ne peut chercher avec foi que par le cœur de l'Église catholique, celui qui est affligé par le désordre des diverses hérésies. Ceux qui le pressent ne croient point en lui, mais ceux-là ont la foi qui le touche. Donc c'est par la foi que l'on touche Jésus-Christ, c'est par la foi qu'on le voit, sa puissance éternelle déborde au-delà des limites de notre faible nature. Donc dans la mesure où j'accepte l'humanité souffrante de notre Seigneur Jésus-Christ, j'accède à sa divinité. Donc il faut d'abord que je fasse un acte de foi en la divinité, en l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, et reconnaître que derrière cette humanité, il y a une divinité que je ne vois pas, qui est cachée. Et donc si je vois que l'humanité, que je m'arrête à l'humanité, je n'obtiens pas la guérison. Et si au contraire, j'accepte la divinité qui est cachée derrière l'humanité, alors Dieu va guérir mon manque de foi. Si nous considérons d'un côté l'étendue de notre foi, de l'autre la grandeur du Fils de Dieu, nous verrons qu'en comparaison de cette grandeur divine, nous touchons seulement le bord de son vêtement, sans que nous puissions en atteindre le haut. Si donc nous voulons obtenir notre guérison, touchons par la foi le bord du vêtement de Jésus-Christ. Personne ne peut le toucher sans qu'il le sache. Heureux celui qui touchera la moindre partie du Verbe, car qui peut le comprendre tout entier? Donc il suffit de toucher la bordure de son vêtement. Il suffit de faire un acte de foi dans la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et cela est suffisant pour nous amener à la conversion. Voilà, je vais arrêter là, puisque ça fait déjà plus d'une heure que je vous parle. Donc la prochaine fois, Dieu aidant, nous terminerons ce chapitre 8 de Saint-Luc, et nous commençons le chapitre 9. On va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin et Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.